C'est moi, c'est Lola. Celle qui dit v'là un bateau, v'là un samedi, v'là des matelots.
Personnage en personne par Charles Danzig. Auteur Wagi Rally, écrivain né à la fin des années 1920, mort en 1969 par suicide. Égyptien, famille bourgeoise désargentée, inscrit au Parti communiste, de confession copte, hétérosexuel. Œuvre Les cigarettes égyptiennes, roman écrit en anglais sous le titre Beer in the Snooker Club, une bière au club de billard, 1964. Première traduction française en 1965 sous le titre Les jeunes pachas, car visiblement c'est un livre auquel les éditeurs français n'ont pas voulu laisser son titre original. Réédition par les éditions de l'Olivier en 2018. Personnage Ram. Je crois ne prendre aucun risque en disant que le personnage en personne de cette semaine est le plus inconnu de tous ceux dont j'ai parlé jusqu'à présent. Et j'espère qu'il le sera moins après cette émission, car non seulement il est très séduisant, mais il montre quelque chose de très peu décrit, sinon jamais, le déclassement de la bourgeoisie non musulmane égyptienne après l'arrivée de Nasser au pouvoir. Ce personnage, c'est donc Ram, R-A-M. Il est le héros nonchalant, intelligent et vaguement idéaliste d'un roman qui est la seule œuvre de son auteur. Wagi Rally a écrit Les cigarettes égyptiennes en anglais, c'est-à-dire dans la langue des anciens maîtres, ces Anglais qui avaient fait de l'Égypte un protectorat avant de reconnaître une indépendance à demi-factice jusqu'au coup d'État de 1950 qui a vu les militaires prendre le pouvoir, et c'est juste après cela que le roman se passe. Wagi Rally est un copte d'Alexandrie de qui on sait assez peu de choses, sa date de naissance précise pour commencer. Ses parents étaient des bourgeois ruinés, il a entrepris des études de médecine. On sait qu'il a participé à une manifestation d'étudiants en 1948, restée fameuse parce que le chef de la police y a trouvé la mort, qu'il a poursuivi des études à Paris dans les années 50 et revenu en Égypte, qu'il a définitivement quitté en 1958 parce que, membre du Parti communiste, il était en danger. Il a vécu une vie qu'on peut dire cosmopolite. Cosmopolite ne veut pas nécessairement dire riche. Il a vécu en Suède et en Allemagne de l'Ouest avant de s'établir à Londres où il a vivoté de petits métiers. À la fin des années 80, une de ses amies a publié un mémoire sur lui, annexé à la nouvelle édition française, qui nous parle de son grand charme et du flacon de somnifère qu'il a avalé pour se tuer. Il ne reste de Walid Rally que ce roman et 6 articles à la première personne dans le Guardian, qui s'appelait alors le Manchester Guardian, ainsi que des fragments de journal intime. Comme dans un roman rose, Les cigarettes égyptiennes finit par le mariage de Ram avec une fille riche et l'abandon de ses activités politiques. Ce roman ne serait-il pas, toute proportion gardée, une version arabe de l'éducation sentimentale et Ram un Frédéric Moreau égyptien? Qui est Ram? Pour en parler, je reçois Damien Aubel, romancier et critique au magazine Transfuge. Damien Aubel, à quoi ressemble physiquement ce Ram qui, je crois, a 25 ans au début du roman?
Alors précisément, c'est une bonne question, la question du physique de Ram, car on ne sait pas grand-chose de lui, pour ne pas dire qu'on ne sait rien. Alors la seule indication, peut-être les deux indications qu'on a, c'est d'une part son côté extrêmement séduisant, que Edna, on parlera d'Edna tout à l'heure, le lui dit, et d'autre part, peut-être par la bande, puisqu'il est copte, à un moment il parle d'un des serviteurs coptes de sa tante ou de sa mère, et décrit donc un visage relativement fin. Donc étant copte lui aussi, on peut peut-être supputer qu'il a un visage relativement fin. C'est un peu tout ce qu'on peut en dire au physique, si ce n'est qu'on peut également imaginer un goût pour les costumes bien taillés, puisque il a ses entrées dans les meilleurs clubs, et entendez par là les clubs anglais ou ex-clubs anglais de sa ville.
Alors vous l'avez dit, Damien Aubel, il est copte. Les coptes en Égypte, c'est un peu comme les Phéniciens au Liban, un demi-fantasme. Ils se disent des descendants des Grecs d'Alexandre le Grand, comme si en 2000 ans les gens ne s'étaient pas mélangés. Mais enfin, ce qui les caractérise est évidemment leur religion.
La religion chez Ram ne joue pas un très très grand rôle. En revanche, son appartenance à la communauté copte est essentielle, puisque, et le roman s'ouvre sur cette scène, où on voit la tante de Ram en train de se défaire de ses propriétés. Et ce qu'on comprend, pour peu qu'on connaisse un tout petit peu l'histoire à cette période, vous l'avez dit, c'est après l'arrivée de Nasser au pouvoir, ce sont donc les nationalisations qui touchent les coptes et et qui précipite cette très très grande famille dans un début de précarité. Et c'est ça qui rend le personnage passionnant, et c'est peut-être là, je dirais, le premier aspect de son dédoublement. Il fait à la fois partie d'une très grande famille, c'est un personnage qui a les réflexes de la richesse, qui en a le goût, et d'un autre côté, c'est un personnage qui est désargenté et impécunieux. Il est à la fois à l'intérieur de cette grande famille, il en profite, quasiment un parasite on pourrait dire, ouais. Et d'un autre côté, il a ce regard extérieur, ce regard très très critique, très affûté.
Alors comme l'histoire de l'Égypte n'est pas nécessairement très très connue, vous avez dit que c'était au moment des nationalisations des biens coptes, mais le roman se passe avant la nationalisation du canal de Suez, où il y aura d'autres nationalisations après, et on en parlera car c'est important aussi. Mais tout ça, ça sert aussi à dire que c'est un roman à la fois sentimental, on en parlera peut-être, mais c'est avant tout un roman politique.
Oui, alors c'est un roman qui se situe très exactement au confluent du sentimental et du politique. Vous avez évoqué l'éducation sentimentale tout à l'heure, et ça me paraît extrêmement juste comme rapprochement. Et c'est un roman qui précisément pose, d'une façon qui n'est absolument pas théorique, d'une façon très brillante, très romanesque, peut-être presque comme chez un Stendhal, chez un Lucien Leven, c'est un roman qui pose la question de l'engagement en politique et des ressorts de cet engagement, ou plus exactement de la complexité de ces ressorts. Et il y a une scène extrêmement frappante où, alors c'est une scène complexe donc je vais pas tout résumer, mais il ressort de cette scène que si Ram s'engage en politique, c'est d'abord au moment où la politique a pour lui un sens personnel et éminemment personnel. S'il y a quelque chose de viscéral, une forme de colère, de désabusement. Et pour résumer les choses très rapidement, on pourrait dire qu'il y a plusieurs étapes dans l'émergence de la conscience politique de Ram, si j'ose dire. Une première étape qui est purement livresque. Il dira lui-même « je lisais, mais je ne comprenais pas », grosso modo. Et ensuite, il y a une seconde étape, qui elle est liée à son histoire personnelle et sentimentale. Et c'est cette histoire sentimentale qui va véritablement le précipiter dans l'activisme politique.
Il y a une chose qu'il faut dire avant même de parler de cet engagement politique, c'est que, et d'une certaine façon, ça fait de Ram un personnage qu'aurait, à mon avis, sans doute aimé Fellini. C'est un désœuvré qui boit, et qui boit à ce fameux club de billard où il joue aux cartes, il discute avec un cher ami qui est important dans le roman, qui s'appelle Font, ou Fonte. Et il y a un côté Vitelloni, un peu comme ça, c'est-à-dire que la conscience est lente à lui arriver. Il passe d'abord son temps à ne rien faire.
Alors complètement, c'est un désœuvré, mais alors peut-être plus qu'un Vitelloni, parce que si le monde autour de lui peut être grotesque, je pense à ce duo d'Arméniens qui est extrêmement drôle, lui n'est pas grotesque. Lui, me semble-t-il, est plutôt dans une lignée qui serait celle d'un certain dandysme à la française, peut-être. Ce serait peut-être un mélange de dandy avec une forme d'humour noir, de désœuvré aussi.
Et très désabusé.
De désabusé, et je disais de dandy, au sens où il ne fait peut-être pas de sa vie une œuvre d'art, en revanche il a une conscience très très forte de sa vie, une conscience suraiguë de lui-même qui va jusqu'à le paralyser aussi.
Alors ce qui est important de dire, et on l'aborde par petites touches depuis quelques phrases, Damien Aubel, c'est que Ram vit dans un monde dont on sent bien au fur et à mesure du récit qu'il s'efface et qui a complètement disparu maintenant. C'est un copte qui fréquente des Arabes et qui a une maîtresse juive.
Mmh. Alors, très exactement, il y a ce, vous parliez de cosmopolitisme tout à l'heure, on peut dire qu'il y a une espèce, j'allais dire, d'universalisme là-dedans, mais peut-être plus. Il me semble que c'est peut-être la dernière queue de la comète de cette espèce d'imaginaire mondain, cosmopolite. Alors, je ne citerai pas Paul Morand, ce serait un contresens, mais il y a cette idée de ce monde à la fois où la grande richesse faisait tomber toutes les barrières. Mais ce qui est passionnant, me semble-t-il, dans ce livre, c'est que au moment où Ram prend effectivement conscience de cet universalisme dont on parlait, c'est en Angleterre. C'est précisément en Angleterre avec une personne qu'il rencontre dans un pub. Et c'est là qu'il va prendre conscience de ce qui est peut-être un des autres fils conducteurs du livre. C'est la nécessité, l'exigence, le désir du naturel, d'être naturel.
Avant de passer à l'Angleterre, je voudrais qu'on reste un instant sur cette maîtresse, cette Edna. D'abord, ce que vous dites sur le cosmopolitisme, c'est aussi une chose au fond, où Rally n'a pas eu à chercher beaucoup, c'est les derniers soubresauts du règne du roi Farouk, puisque finalement le coup d'État a eu lieu très peu d'années avant, la vieille société est encore en place, et donc ce mélange social et cette mondanité est probablement le dernier résidu de Farouk. Et donc, il y a encore des Juifs en Égypte, et cette Etna est très intéressante, car c'est une fille d'une riche famille juive qui s'est rebellée contre sa classe. Et ce qui est intéressant, c'est que d'une part, Ram fait des blagues sur Israël, ça existe, mais ça n'est pas un fantasme. Et je disais que les dates sont importantes tout à l'heure, parce que ça n'est pas encore le moment où Nasser a installé son lyrisme de nationalisme arabe, qui viendra surtout après l'expédition de Suez en 56. Et puis, que c'est une femme qui a la conscience politique et qui la porte à Ram et à son ami Fonte.
Alors complètement, Edna est un personnage passionnant, car Edna, c'est ce qu'on pourrait appeler une pure, c'est une absolue, c'est une intransigeante. Et c'est peut-être la grande différence avec Ram, c'est que Ram, lui, fait partie de ce monde, on parlait de ce monde cosmopolite, et je parlais de dandisme tout à l'heure, Ram a ce quelque chose qui identifie avec la quintessence de l'Égypte, ce qu'il appelle le goût du mot d'esprit, le goût de l'humour, le goût de la dérision, de l'autodérision, et c'est ce que n'a pas Edna, c'est la différence entre les deux, je pense. On a d'un côté une véritable engagée, une puriste, et de l'autre, quelqu'un qui a ce regard toujours un peu distancié, toujours un peu ironique.
Alors, cette Edna est communiste, et c'est elle qui donne des livres, vous l'évoquiez tout à l'heure, qui donne des livres à lire à Ram et à son camarade, à son ami. Et il a cette phrase qui est peut-être un des moments clés du livre. Il dit, peu à peu, à la suite des lectures, peu à peu, nous commençâmes à nous considérer comme des membres de l'humanité en général et non pas simplement comme des Égyptiens.
Alors, c'est exact. Et je trouve cette vous avez raison, cette phrase est une des clés du livre, à condition, me semble-t-il, de l'entendre dans le double sens qu'elle porte. Alors, le premier sens est effectivement cette espèce d'universalité qui fait tomber un peu toutes les barrières. Et d'autre part, l'autre sens, c'est que l'humanité reste un terme un petit peu abstrait, un terme livresque, et ça en dit long sur le rapport justement de Ram et de Fonte lorsqu'ils arrivent pour la première fois à Londres, on en parlera peut-être tout à l'heure, à ces idées, à ces livres, c'est qu'ils vivent dans un monde imaginaire, ils vivent dans un monde de fiction, dans un monde d'idées, et c'est là que se situe précisément, me semble-t-il, peut-être ce qu'on pourrait appeler la difficulté politique de Ram, c'est que la première étape de son engagement est un engagement d'ordre livresque, d'ordre intellectuel.
Mais en quoi ça serait moins réel que n'importe quel autre engagement? C'est pas parce que l'engagement est livresque qu'il est moins...
Alors précisément, et c'est là me semble-t-il la grande intelligence politique de ce livre, que vous aviez vraiment raison de comparer à Flaubert, c'est que une fois que Ram et Fonte se sont plongés dans ces lectures à l'instigation d'Edna, qu'est-ce qui va en ressortir d'abord? Eh bien, ce qui va en ressortir d'abord, c'est une vision très imaginaire, très idéalisée de l'Angleterre. Il y a tout un passage très drôle où il pense à l'Angleterre, il rêve d'Angleterre, il rêve des pubs, il rêve de l'hiver anglais.
Mais tout ça est cassé par le fait qu'ils y vont en Angleterre. Donc justement, l'un et l'autre vont en Angleterre, ils sont... c'est intéressant d'ailleurs de savoir quels pouvaient être les rapports intellectuels entre l'Égypte et l'Angleterre à ce moment-là, une fois que les Anglais étaient partis. Quels pouvaient être les rapports entre les deux? Il me semble que le roman montre ça par ces deux personnages qui s'établissent chez une famille d'Anglais de gauche, qu'ils reçoivent plutôt bien d'ailleurs.
Alors, il me semble que l'Angleterre reste, alors en tout cas pour la grande bourgeoisie égyptienne, l'Angleterre reste une espèce de modèle, difficile à dire entre un modèle et un fantasme, mais en tout cas, c'est le rêve d'un âge d'or qui aurait disparu. C'est un modèle auquel on rêve de s'identifier. Il me semble que, en l'occurrence, là, le personnage clé, c'est peut-être le personnage de Mounir, alors qui est moins anglais qu'américain.
Qui est-ce?
Alors Mounir, c'est précisément le rival de Ram. Il symbolise un peu tout ce que Ram n'est pas, c'est-à-dire il est l'intériorisation d'un modèle occidental, mais l'intériorisation d'un modèle occidental qui est celui de la modernité.
Donc, les idéaux pro-anglais de Ram se frottent un peu à la réalité anglaise et ça se passe pas si bien son séjour en Angleterre, si peu bien qu'il est expulsé puisqu'il y a eu un incident dans une manifestation, n'est-ce pas ? Il repart en Égypte. Et en Égypte, finalement, il abandonne tout sauf l'alcool et c'est même la dernière phrase du livre.
Alors, il abandonne tout pour la bonne et simple raison qu'il est parvenu au bout d'un chemin qui est un chemin de la désillusion, un chemin qui va le mener là. Voilà, la dernière phrase du livre, c'est un petit peu une espèce de reprise de sa vie antérieure après être passé par le stade du politique, si j'ose dire. Mais c'est un petit peu c'est la conquête d'une lucidité, la conquête d'une lucidité douloureuse qui passe par la désillusion. Enfin,
nous allons entendre un chanteur égyptien pour les fêtards des années 2000, une star, Amra Diab. Il chante Ella Habibi, extrait de l'album Waya. Et la chanson date de 2009. Damien Aubel, on sent bien que ce qui se passe dans les cigarettes égyptiennes, c'est que Ram et ses semblables perdent leur pouvoir social ou le peu qu'il leur restait. Le roman annonce, selon moi, avec toute la perspicacité de la fiction, ce qui va se passer avec l'installation définitive au pouvoir de Nasser et des militaires, c'est-à-dire non pas la liberté et la décence s'installant à la suite de ce roi corrompu qu'était Farouk, mais au fond, et tout simplement le remplacement d'une élite par une autre.
Le remplacement d'une élite par une autre, exactement, et même pour reprendre un mot célèbre, l'histoire se répète, mais l'histoire se répète ensuite en farce, c'est plutôt l'imitation de l'élite antérieure par une autre.
Alors, Ram est un personnage entre deux mondes, son monde social qui s'efface, nous venons de le dire, et la société nassérienne qui se déploie, mais aussi entre deux haines. Et quand il va en Angleterre, c'est assez frappant, comme il a des manières, et surtout qu'il est moins noir de peau que peuvent l'être les ex-colonisés d'Inde ou d'Afrique, il est moins maltraité. Et ça contribue aussi à son malaise.
Oui, ça contribue. Alors, ça contribue également à son malaise. Et alors, j'imagine que vous pensez là à une scène clé. C'est, il se rend en Angleterre, il veut louer un appartement. Ouais, et la logeuse avait fait savoir qu'elle ne voulait absolument pas de noir. Et son nom lui paraissait suspect. Mais le voyant, ah non, ce n'est pas un noir. Comment réagit Ram ? Eh bien, il réagit parce qu'il a toujours fait, il réagit en jouant la comédie. Il dit à la logeuse, ah ben non, là, il me faudrait un garage pour ma Bentley ou pour ma Rolls. Bref, il surjoue son rôle de grand bourgeois. Et ce qui nous montre une chose, c'est que Ram, confronté à l'inacceptable pour lui, c'est-à-dire au racisme, tout simplement, comment réagit-il ? Il réagit par la comédie, il réagit par la mise en scène, il réagit par, et on en revient à ce que je disais tout à l'heure, il réagit par le mot d'esprit, par ce qui est typiquement égyptien selon lui, c'est-à-dire la capacité à rire de tout.
Mais est-ce que ça ne veut pas dire qu'il réagit avec lâcheté ?
Alors, s'agit-il de lâcheté ou non ? C'est difficile à dire, car, disons, une vision strictement politique dirait qu'effectivement, Ram n'agit pas. Ram est passif, c'est vrai. D'un autre côté, il a une conscience de la complexité des rapports, une lucidité qui lui permet peut-être d'être plus politique que ceux qui agissent. Et je pense que c'est ce qui en fait un personnage absolument passionnant, c'est que il est un... J'allais dire que c'est un personnage amputé, il lui manque la possibilité d'agir, mais il a la claire conscience de ce qui se passe.
Ce qui a disparu et que nous montre encore ce roman, c'est aussi une, je parle là de l'Égypte et plus de l'Angleterre, de la partie égyptienne et pas anglaise, c'est une façon de vivre entre les communautés que le nationalisme nassérien et tous les nationalismes actuels rendent impossible. C'est-à-dire que après Nasser, les Juifs ont été chassés, les Grecs, les Arméniens, les Coptes sont maintenant dans une situation précaire. Et on voit bien qu'il y a une espèce de société qui, nous paraît irénique, où ces gens pouvaient encore vivre ensemble.
Oui, alors il me semble que le ciment de ce vivre ensemble, pour reprendre ce syntagme, ce ciment-là passe peut-être encore par une forme d'humour, par cette capacité à se distancier de la situation immédiate, de la situation ethnique dans laquelle on se trouve. Je vais prendre un exemple très simple et très frappant. Je vous parlais des deux Arméniens tout à l'heure. Ce sont deux commerçants arméniens qui sont férus de billard et de temps en temps ils jouent avec des Turcs. Bon, on connaît les rapports entre Turcs et Arméniens, on va pas s'étendre dessus. Et que font-ils avec les Turcs? Au lieu d'en venir aux mains, ils s'échangent des blagues et des blagues qui aujourd'hui nous vaudraient tous d'être condamnés pour un procès. Ils s'échangent des blagues sur le génocide arménien, sur ce que les uns ont fait des autres. Et c'est par ce ciment-là, par ce ciment qui est celui de l'humour, de l'autodérision, qu'on a l'impression que ça tient ensemble.
Oui, vous avez raison d'insister, c'est aussi un roman qui peut être très drôle et qui peut être très humoristique. Il y a déjà, et on l'aperçoit dans les cigarettes égyptiennes, une violence entre les communautés, puisque Edna, il y a une scène très frappante où elle est défigurée. Est-ce que vous voulez me raconter la scène?
Alors Edna est balafrée, ce dont s'aperçoit Ram lorsqu'il la retrouve à une soirée. Il voit qu'elle a une cicatrice, elle est balafrée, et ce sont des officiers égyptiens, un officier égyptien donc qu'il a cinglé, je sais pas si d'un coup de badine, de fouet, je sais plus,
ouais.
De fouet me semble-t-il. Et effectivement, il y a cette violence là, et c'est cette violence qui plonge aussi Edna dans une espèce de dilemme, puisque elle est égyptienne, mais en même temps elle est rejetée par l'Égypte. Et c'est aussi le drame d'une certaine façon, c'est le drame de Ram également, puisque Ram est égyptien, se sent profondément égyptien, mais d'un autre côté, il lui manque ce qui ferait de lui un véritable égyptien, il lui manque la maîtrise de l'arabe.
La maîtrise de l'arabe, il n'a pas la bonne religion non plus, puisqu'il n'est pas musulman, et voilà. Ce qui a aussi changé, qui m'a frappé dans une phrase accessoire du livre, mais accessoire juste en quantité, c'est que, à un moment, une égyptienne pose à Ram une question sur une américaine et il lui répond, au moins, elle n'est plus une satanée vierge comme toi. Et il y a une liberté dans cette parole d'un égyptien qui s'adresse à une égyptienne dont je me demande si elle serait possible aujourd'hui.
Alors ça c'est une bonne question. Alors peut-être là-dessus deux choses. Premièrement, un petit bémol, il y a effectivement une très grande liberté de parole. En revanche, on le voit bien que le personnage de Didi, c'est celle que finit par épouser Ram, la liberté des corps qui peut exister doit passer ensuite par une normalisation des corps. Donc il y a quelque chose, il y a une espèce de dichotomie, pour ne pas dire de schizophrénie, entre la grande liberté de parole et le peu de liberté d'action qui est laissé. Ça, c'est le premier point. Et puisqu'on parle justement des évolutions dans la liberté, j'aimerais parler un petit peu de la fortune du livre après la mort de son auteur, des années après. Le livre n'a été édité en arabe pour la première fois en 2006, je crois.
Et en arabe ou en Égypte?
Oui, et également après en 2011. Et très intéressant, je suis tombé sur un article de, alors je ne sais plus si The Egypt Independent ou bref, un journal anglophone mais égyptien, qui expliquait l'auteur de l'article donnait sa stupéfaction en constatant que finalement il suffirait de remplacer Nasser par Moubarak et rien n'aurait changé.
Oui, bien sûr, c'est vrai.
Et il me semble que c'est dit aussi que le livre, vous disiez tout à l'heure qu'il était quasiment prophétique, préfigurateur, il a bien préfiguré ce qui était cette espèce de tension qui n'est peut-être pas d'ailleurs seulement propre à l'Égypte, peut-être propre à d'autres pays arabophones, entre d'une part un vernis liberté, vernis démocratique, et d'autre part la persistance, l'induration d'un conservatisme extrêmement rigide.
Oui, oui, vous avez raison, ça peut se lire 50 ans avant comme une espèce aussi de d'écho antérieur, si je puis dire, des printemps arabes, parce qu'il y a le même échec à la fin. Car au fond, l'échec de Ram est un échec politique. Il se marie avec cette fille et puis il abandonne la politique. Et c'est, vous avez raison de parler d'induration et de réitération, on a l'impression que c'est la perpétuelle répétition de l'échec de la démocratie, disons, dans ces pays.
Pour poursuivre là-dessus, il me semble que Ram est aussi, du point de vue politique, quelque chose d'extrêmement moderne. Je parlais tout à l'heure de sa grande intelligence, sa grande lucidité. Une grande lucidité qui débouche sur quoi? Eh bien, sur une forme de, j'allais dire, de nihilisme light, c'est-à-dire, à quoi bon agir? À quoi bon faire quelque chose? Vous savez, vous parliez d'éducation sentimentale tout à l'heure, le premier titre envisagé par Flaubert pour éducation sentimentale, c'est les fruits secs. Et Ram et Fonte sont des fruits secs. Ce sont des intellectuels qui ne peuvent pas agir. Et voilà, d'une certaine façon, ce livre raconte aussi ça. Il raconte la façon dont de jeunes intellectuels brillants, nantis d'idéaux tout à fait humanistes, tout à fait universaux, se heurtent à cette grande incapacité qui est l'incapacité d'agir.
Est-ce qu'il y a eu des romans comparables en Égypte récemment? Je pense à L'immeuble Yacoubian dans la Soigny, mais qui est assez amusant, mais plus anodin que les cigarettes égyptiennes, il me semble.
Alors, je ne suis pas un grand connaisseur de littérature égyptienne, mais vous parlez d'Ala El Aswani. Je citerai plutôt Automobile Club d'Égypte. Automobile Club d'Égypte se déroule à peu près dans la même atmosphère, c'est-à-dire cette atmosphère de luxe, de club, cette espèce de fantasme d'une Égypte. D'une Égypte huppée, d'une Égypte cosmopolite, la façon dont ça se mélange et dont le mélange prend plutôt mal avec la politique, le danger, la menace qui plane là-dessus. Donc il me semble qu'il y a ça, mais il me semble qu'il y a aussi derrière le personnage de Ram, alors ce ne sont pas du tout les mêmes histoires, mais il me semble qu'il y a aussi quelque part en filigrane, il y a un esprit qui est un peu l'esprit d'Albert Cossery derrière, c'est-à-dire la capacité, le désœuvrement, la grande intelligence, et puis le fait de regarder le monde en riant. Sauf que chez Cossery, ce rire est finalement un rire de réjouissance, chez Ram et chez Cher Ali, c'est un rire tragique.
Au-delà du personnage lui-même et des circonstances de ses aventures, de Nasser, de l'Angleterre des années 50, etc., est-ce que ça n'est pas très simplement un roman sur l'idéalisme et qui nous montre que s'il veut réussir, l'idéalisme doit être un métier?
Alors, c'est juste, en fait, il nous dit deux choses. À travers Edna, il nous dit que pour réussir une révolution, il faut être, pour prendre un terme qui fera florès dans les années 60-70, il faut être un révolutionnaire professionnel, c'est-à-dire ne faire que ça, avoir cette pureté. Et d'autre part, ce qu'il nous montre peut-être, c'est que, revenons-en un peu au personnage de Ram, revenons à son intelligence brillante, ce qu'il nous montre aussi, c'est que peut-être pour être idéaliste, il ne faut peut-être pas être si intelligent, il faut peut-être avoir un minimum de bêtises. Et cette bêtise-là, je n'entends pas du tout dans un sens péjoratif, mais il faut avoir un minimum d'adhésion aveugle à des idéaux, ne peut-être pas se regarder en permanence comme dans un miroir, comme le fait Ram.
Damien Obel, que vous a appris le personnage de Ram?
Alors, le personnage de Ram, alors, s'il m'a appris des choses, il m'en a appris beaucoup, d'une part le goût de l'élégance, la recette de la bière à la vodka et au whisky, mais il m'a aussi surtout appris quelque chose, je pense, une réflexion de Ram. Il parle de lui, du peuple égyptien plus généralement, il dit, nous sommes un peuple paresseux, nous devenons sérieux que lorsque nous jouons. Et il me semble que c'est là la plus belle définition de la fiction qui soit, c'est devenir sérieux, absolument sérieux, mortellement sérieux, mais dans le jeu. Ce qui interdit d'être révolutionnaire, ce qui interdit d'être politique, mais ce qui permet de garder le goût du sérieux aussi.
C'était Personnage en personne, le 49e. La semaine prochaine, je parlerai du personnage de Fabrice Dal Dongo, créé par Stendhal dans La Chartreuse de Parme.
Comme si j'étais assis là-haut, paradis.
Réalisation Clotilde Pivin. Attachée de recherche et de documentation Daphné Abgral. Prise de son de Marie Lepeintre.
Le paradis acquis.
Dans un instant, une saison au théâtre avec Joël Gaillot.
C'était un grand jeudi. Tous les jours, paradis.